Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute de ce numéro de Métropolez-vous. Salutations particulières aux nouveaux auditeurs de cette émission. Comme vous le savez, si vous l'écoutez régulièrement, Métropolez-vous a pour but premier de mieux vous faire connaître l'organisation et le fonctionnement de Toulouse Métropole, ses missions, ses actions et ce qu'on appelle ses compétences, ses domaines et champs d'intervention. Il y en a qui sont très bien connus de la plupart des citoyens métropolitains, comme les transports, l'habitat, l'urbanisme, les finances, le développement économique, la culture, l'environnement, les sports, la collecte et le retraitement des déchets par exemple. Et puis il y a des compétences qu'on connaît moins parce que relevant moins directement de notre vie quotidienne ou en raison parfois de leur intitulé peu explicite pour qui ne baigne pas dans le domaine concerné. C'est le cas de la compétence aménagement et politique foncière, pourtant cruciale pour l'avenir de notre territoire. Il s'y prend des décisions, des orientations qui dessinent le visage de la métropole à long terme. Le présent numéro a pour but de vous permettre de vous familiariser avec cette mission. Il est donc consacré au choix de Toulouse Métropole en matière d'aménagement et de politique foncière. Et tout naturellement, l'invité de cette émission est Dominique Fouchier, vice-président de Toulouse Métropole chargé de l'aménagement et de la politique foncière. Bonjour monsieur et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes également maire de Tournefeuille et conseiller départemental de la Haute-Garonne. Alors je crois que c'est aussi bien la première fois que vous venez à Radio Présence, mais aussi la première fois que vous êtes en charge de la vice-présidence de l'aménagement et de la politique foncière de Toulouse Métropole. Et je me demandais si le choix de cette compétence très technique pouvait avoir un lien avec votre carrière et vos compétences professionnelles, eu égard à votre activité d'ingénieur spécialisé dans le domaine agricole et de votre passage au ministère de l'Agriculture puis de l'Écologie.
Alors, merci de votre invitation. En premier lieu, même si le parcours des élus n'est pas toujours lié au parcours professionnel, il se trouve qu'effectivement, après le ministère de l'Agriculture, j'ai eu à exercer au ministère de l'Écologie. Et donc, ces questions d'aménagement, d'agriculture, d'environnement de façon plus large ne sont pas complètement étrangères.
Donc c'est une compétence très technique, hein. L'intitulé le dit en lui-même. Il y a beaucoup de chiffres, je suppose. Du droit aussi, il y a des aspects juridiques.
C'est une compétence excessivement technique en interface avec d'autres délégations comme l'urbanisme, l'habitat, l'écologie, l'environnement, le développement durable, les questions de mobilité. C'est effectivement une compétence assez généraliste, technique, juridique, mais excessivement politique.
Oui, alors ça, on y reviendra à ces aspects politiques de la compétence aménagement et politique foncière. Alors pour poser un peu le décor, on va donner quelques chiffres. Quelle est la surface totale de Toulouse Métropole à ce jour, donc les 37 communes, je le rappelle, Toulouse plus 36 autres communes autour la Grande Couronne, en hectares ou en kilomètres carrés, ça représente pas tout à fait 50 000 hectares, mais ce n'est pas très loin tout de même.
Alors, pas tout à fait 50 000 hectares, un peu plus de 45 000 hectares sur le territoire de Toulouse Métropole. C'est plus grand que la métropole de Lille, un peu plus petit que les métropoles de Lyon ou de Marseille. 56% de ce territoire est urbanisé. Les espaces naturels représentent 20%, les espaces agricoles 24% de ce territoire.
Voilà, donc un peu plus de la moitié urbanisé à ce jour. Beaucoup de territoires agricoles, mine de rien, les gens ne sont peut-être pas toujours conscients. Ça représente un cinquième tout de même de la surface. Et puis donc des zones, des espaces naturels. Est-ce qu'aujourd'hui, les choix qui sont faits en matière de politique foncière et d'aménagement font que, je m'intéresse d'abord aux espaces naturels et agricoles, on essaie de les sanctuariser, d'y toucher le moins possible?
Oui, absolument. La perspective, notamment du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, nous ont invités dans la réflexion à protéger les espaces agricoles et les espaces naturels afin de reconquérir de la biodiversité. Et nous sommes inscrits dans la transition écologique de façon effectivement très importante.
Petite question sur la densité de la population sur le territoire métropolitain. Je me demandais si, par rapport à d'autres métropoles françaises, si on était dans la moyenne, si on était plutôt en dessous, ou si on commençait déjà à avoir une densité de population importante.
Alors, la densité de population est un peu moins de 17 habitants à l'hectare. La densité de la métropole toulousaine est inférieure à d'autres métropoles en France. Nous avons un peu plus de 17 habitants à Lille à l'hectare. Marseille également, un peu plus de 17 habitants. Lyon est beaucoup plus dense avec 26 habitants à l'hectare. Et Bordeaux est inférieur avec un peu moins de 14 habitants à l'hectare. Donc, nous situons effectivement dans une moyenne plutôt basse de densité d'habitat. Le poids démographique de Toulouse représente plus de 60% de la population de la métropole.
Oui, puisqu'aujourd'hui, Toulouse est presque arrivée aux 500 000 habitants et la métropole, c'est bientôt 800 000. Sachant que la question de la densité aussi aujourd'hui, c'est le nombre d'habitants qui arrive chaque année. Alors là, il faut qu'on soit précis parce qu'on entend souvent le chiffre de 13 à 15 000 habitants chaque année en plus dans la métropole toulousaine. C'est pas tout à fait vrai. Ça, c'est l'agglomération toulousaine.
Absolument, 13 à 15 000 nouveaux habitants sur l'agglomération toulousaine, qui est un territoire plus large que la métropole, qui accueille 8 à 9 000 habitants supplémentaires chaque année.
Voilà, donc c'est 8 à 9 000. Et puis tous ces gens-là, évidemment, il faut les loger. Alors, c'est combien de logements en plus chaque année? C'est presque autant que de nouveaux habitants?
L'habitat, le logement constitue un véritable enjeu sur nos métropoles en France de façon générale parce que effectivement le solde migratoire nous invite à construire du logement et aussi il faut considérer que la qualité du logement est importante. La feuille de route de Toulouse Métropole en la matière, eh bien, c'est aux alentours de 7000 logements par an, une feuille de route qui est fixée pour la période 2020-2025.
Donc c'est presque autant que de nouveaux habitants chaque année, finalement.
Oui, c'est ça. En gros, il faut considérer que cet objectif est de nature à répondre aux besoins de logement de la population présente, mais aussi de la population qui arrive, bien entendu.
Sachant évidemment que nouveaux habitants, nouveaux logements, mais aussi souvent nouveaux services. Donc, il faut aussi construire de nouveaux équipements. Il n'y a pas que des logements qu'on est obligé de construire.
Alors, ça pose la question de la répartition de cet objectif de logement. Et puis, ça pose la question du rythme de production de logements. C'est un sujet important qui est travaillé évidemment par l'intercommunalité Toulouse Métropole, mais évidemment en lien très très étroit avec chacune des 37 communes membres pour arriver à une répartition qui respecte évidemment les besoins en logement, mais aussi qui respecte la capacité d'accueil de ces populations sur nos communes.
Alors c'est là qu'on en arrive aux choix qui sont faits en matière de politique foncière et d'aménagement du territoire face, entre autres, à cet afflux de population, à ces nouveaux habitants. Est-ce que pour y faire face, pour construire des logements, éventuellement pour construire de nouveaux équipements, on consomme des espaces naturels ou agricoles, donc on fait ce qu'on appelle de l'étalement urbain, ou est-ce qu'au contraire, on densifie, on intensifie l'existant, et dans ce cas-là, en construisant plutôt en hauteur?
Le PLUIH, plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, a fixé en la matière des objectifs très clairs. Je crois qu'il n'est pas inintéressant de les rappeler. Il s'agit de protéger la biodiversité, de reconquérir la biodiversité. Il s'agit de s'inscrire dans la transition écologique. Il s'agit de réduire la question de l'effet de serre, en particulier notamment des îlots de chaleur. Il s'agit d'améliorer le cadre de vie des habitants de nos communes et de la métropole. Et donc, dans cette perspective-là, le PLUIH se fixe un objectif de réduction de la consommation foncière avec un objectif qui est de diminuer de 10% la consommation d'espace que nous avons réalisé dans la période précédente, c'est-à-dire en gros de moins consommer que la période précédente, tout simplement.
Donc effectivement, d'essayer en tout cas de sauvegarder l'existant en matière de territoires agricoles et espaces naturels, autant que faire se peut.
Protéger dans nos règlements, protéger les espaces agricoles et les espaces naturels, bien entendu, de reconquérir de la biodiversité en ville, c'est l'enjeu de la nature en ville.
La végétalisation de l'espace urbain.
Absolument, désartificialiser un certain nombre d'espaces, végétaliser, en tout cas, œuvrer dans cette perspective-là.
Alors, petite question là au passage, est-ce que vous avez le sentiment que les citoyens métropolitains sont bien informés des choix d'aménagement et de politique foncière de la métropole et qu'ils ont une juste perception des choix qui sont faits dans ce domaine? Moi, j'ai souvent l'impression, lorsque je discute avec les uns ou les autres, que eux pensent qu'on urbanise un peu à tout va en sacrifiant parfois la beauté, l'harmonie de l'architecture toulousaine typique et en grignotant sur les espaces naturels, ce qui manifestement n'est pas du tout la volonté de la métropole. Est-ce qu'il n'y a pas un petit déficit de communication, en tout cas d'explication dans ce domaine?
Nous sommes tous très attachés à la qualité du cadre de vie de nos communes et de notre métropole. Je crois qu'il faudrait finalement revenir à une vingtaine d'années en arrière, ou même une quinzaine d'années, où le point de rencontre entre les habitants et ces procédures réglementaires était autour de l'enquête publique, finalement. Et je considère que les communes et Toulouse Métropole, nous avons progressé beaucoup dans la façon d'informer, de communiquer, d'associer les habitants de nos communes qui ont effectivement à la fois le souci de leur cadre de vie et le souci de la participation citoyenne à l'ensemble de ces processus-là. Donc je crois que nous avons procédé à beaucoup d'évolutions en la matière pour mieux associer les habitants de nos communes.
Je pense qu'il y a à la fois une évolution de la mentalité des citoyens et des élus, un peu par la force des choses. Les propriétaires fonciers sur le territoire métropolitain, qui sont-ils ? Alors on peut penser, il y a évidemment sans doute beaucoup de privés, des particuliers, des entreprises, des exploitants agricoles, mais il y a aussi l'État, les communes, et la métropole, c'est-à-dire que la métropole est aussi habilitée à acquérir du foncier.
Oui, absolument. Donc vous avez dressé l'inventaire absolument exhaustif des propriétaires fonciers sur nos collectivités. La métropole et les collectivités de façon générale, et Toulouse Métropole bien entendu, sont en capacité d'acquérir des fonciers pour en assurer une maîtrise publique. Et pour cela, nous sommes dotés à l'échelle intercommunale d'un établissement public foncier qui, sur le plan financier, permet d'assurer l'acquisition foncière de ces fonciers qui sont dédiés soit à des équipements publics, de voirie en particulier ou d'autres équipements publics ou des équipements publics communaux comme des écoles, des équipements sportifs, des équipements culturels. C'est absolument indispensable aujourd'hui d'avoir ces outils de maîtrise publique du foncier.
Alors, il y a sur le territoire ce qu'on appelle des ZAC, des zones d'aménagement concertées. Qui est le propriétaire du foncier dans ces zones ? Ça peut être les communes ou la métropole ou éventuellement d'autres propriétaires ?
Alors, la zone d'aménagement concerté, effectivement, est un outil extrêmement important de maîtrise de ces questions d'aménagement. Le foncier, au départ, peut être un foncier privé ou un foncier appartenant à la collectivité qui vient être concédé lorsque la ZAC est concédée à un aménageur au travers d'une concession d'aménagement, et l'opérateur en la matière, lui, acquiert la capacité, la compétence pour acquérir des fonciers lorsque c'est nécessaire.
L'essentiel de la construction dans la métropole, a priori, se fait très largement à l'initiative de promoteurs ou de particuliers ou de bailleurs sociaux. Par contre, il y a un principe fondamental, c'est que la construction doit se faire dans le respect du PLUIH que vous avez cité tout à l'heure.
Oui, alors effectivement, ça c'est, je dirais, c'est une condition absolument indispensable à la délivrance des permis de construire, le respect des règles d'urbanisme en la matière. Je crois qu'il faut mettre un petit peu cette question en perspective de l'esprit du PLUIH actuel, qui est un urbanisme de projet aussi, qui permet à la collectivité et aux opérateurs, promoteurs en particulier, bailleurs sociaux, de définir un projet qui s'insère bien dans son environnement en particulier. Donc ça, c'est les règles. Les règles sont absolument indispensables et respectées. Et bien entendu, de la discussion autour de l'urbanisme de projet pour développer des projets qui répondent aux besoins de nos collectivités, qui s'insèrent bien dans leur environnement.
Alors, on vient de parler du PLUIH, document très important, mais il y a un autre document très important qui est un peu au-dessus, si je puis dire. C'est ce qui s'appelle le SCOT, le schéma de cohérence territorial. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et comment il est conçu et géré ? Parce qu'il dépasse le cadre de la métropole.
Le schéma de cohérence territoriale est un outil de planification stratégique auquel doit répondre les PLUIH des intercommunalités ou des communes. Il est géré par les intercommunalités, ce sont 5 intercommunalités, plus de 113 communes qui constituent ce schéma de cohérence territoriale à cette échelle-là. Les PLU, je viens de l'indiquer, effectivement doivent s'inscrire en compatibilité avec ce SCOT qui lui même répond aux objectifs en compatibilité aussi avec le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité du territoire. En matière de planification urbaine, nous sommes dans un lien de compatibilité du plus large finalement jusqu'au plus petit, en tout cas jusqu'à la commune, jusqu'à la parcelle, pour assurer finalement une cohérence d'un ensemble de sujets qui ne peuvent pas être traités à une échelle trop petite. La question du SCOT permet d'appréhender évidemment cette planification à cette échelle-là, la question notamment de la mobilité qui nécessite une échelle plus large.
Alors vous l'avez dit, c'est 113 communes qui participent à la conception du SCOT. fait, il y a entre autres, il y a la ville de Toulouse, il y a le Meuretin, il y a le Sicoval, et puis il y a les petites communautés de communes et les communes de la première couronne. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des visions et des intérêts contradictoires parmi les concepteurs du SCOT? Il faut arriver sans doute à trouver une vision commune à un moment donné qui peut obliger certains à s'asseoir sur les choix qu'ils auraient fait s'ils avaient pu décider tout seuls.
Bon, il est assez facile de penser qu'à l'échelle territoriale dont on vient de parler, étant représenté par 67 élus, et depuis 2012, la création du SMEAD, du syndicat mixte qui pilote le SCOT de la grande agglomération toulousaine, et posant ces questions d'aménagement, eh bien évidemment, ça amène un certain nombre de discussions sur les enjeux et des arbitrages qui sont absolument indispensables. Mais la confrontation de la vision que nous avons de notre territoire et de la vision que nous avons pour l'avenir de notre territoire à cette échelle-là est absolument indispensable. Donc il faut en passer par là. Ça fait partie de notre rôle d'élu.
Et ça fonctionne plutôt bien dans l'agglomération toulousaine. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans toutes les agglomérations, mais en tout cas, autour de Toulouse, ça se passe plutôt bien.
Oui, le SCOT a été, je viens de l'indiquer, élaboré en 2012, révisé une première fois en 2017. Nous sommes dans une seconde révision du SCOT. Nous sommes appuyés par un certain nombre de services qui éclairent avec des analyses extrêmement pertinentes sur ces sujets-là. Donc oui, on peut considérer que le travail se passe dans de bonnes conditions.
Quels sont, à ce jour, les grands projets en cours dans les domaines de l'aménagement de la politique foncière dans la métropole toulousaine? Est-ce que la crise sanitaire, d'ailleurs, a pu en remettre certains en question ou les retarder?
Bon, il y a deux questions. Quels sont les grands projets ou en tout cas sur quoi travaillons-nous en matière de politique foncière? Et dans un second temps, qu'est-ce qui peut être impacté par la crise du Covid? Cette question de du foncier est évidemment fondatrice des questions d'aménagement. L'ensemble des outils de planification dont on vient de parler sont déterminants de ce point de vue-là. Et la maîtrise du foncier au travers d'une politique foncière, c'est vraiment la base de l'aménagement. Donc c'est un travail que nous avons engagé dès ce début de mandature avec les communes de telle façon à avoir une vision stratégique de cette question du foncier. Plus précisément, nous aurons un plan d'action foncière qui associera l'ensemble des communes autour de cette vision stratégique. Et puis de façon plus précise, nous travaillons à la création d'un organisme de foncier solidaire qui là aussi permettra de porter le logement social de façon plus particulière. Et donc nous avons effectivement un chantier en matière de politique foncière assez conséquent. Le président Jean-Luc Moudin qui est attaché à ce que nous ayons une politique foncière importante sur la métropole.
Alors la crise sanitaire dans tout ça, est-ce que ça a un effet retardateur ou est-ce qu'on met certains projets en stand-by en attendant de voir comment les choses vont évoluer ou pour l'instant tout suit son cours normalement?
Alors je l'indiquais, le PLUH en particulier a été adopté en 2019. Nous sommes dans l'exercice de la feuille de route 2020-2025 en matière d'urbanisme, en matière d'habitat. Nous sommes en 2021. Nous sommes encore dans cette crise. On ne peut pas dire aujourd'hui que les effets sont pris en compte dans la planification telle qu'elle se... avec des changements importants sur la feuille de route que nous avons fixée. En revanche, on peut imaginer que sur le plan à la fois quantitatif et à la fois sur le plan qualitatif, la crise amènera un changement de regard sur ces questions, sur nos espaces extérieurs en particulier, sur la qualité de nos logements. Je pense que la crise du Covid sera un accélérateur d'évolution sur ces questions.
Qui aura eu lieu, mais qui auront lieu encore plus vite.
Voilà, sur ces questions globalement d'aménagement, de la qualité de l'habitat, de la question de la mobilité, de la question de l'organisation du travail aussi.
Ouais, avec le télétravail qui va sans doute se développer encore plus que...
Voilà, tous ces sujets-là qui ont été posés avec beaucoup de brutalité, finalement, qui étaient dans le quotidien à la fois des habitants de nos communes, mais aussi de nos réflexions, mais effectivement se posent aujourd'hui. En tout cas, la crise du Covid les a posés avec beaucoup de brutalité et il nous faudra vraisemblablement y travailler. Nous y travaillons pour intégrer tout ça.
Je vais terminer par une question, on va essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir. À quoi devrait ressembler le territoire de Toulouse Métropole, mettons à l'horizon 2030, on va se projeter à 10 ans, si on se réfère au choix d'aménagement et de politique foncière fait aujourd'hui? Parce que l'enjeu, me semble-t-il, c'est de trouver un juste équilibre entre espace urbain et naturel, l'accès aux transports et aux services, tout en maintenant la qualité de vie que nous envient beaucoup d'autres métropoles en France.
Oui, absolument. Bon, je crois que le mot est juste. C'est trouver le juste équilibre entre le développement économique, la qualité de vie, la qualité du cadre de vie, la question de la transition écologique, la question de finalement comment ce petit morceau de planète finalement que constitue notre métropole peut répondre aux grands enjeux de la question du réchauffement climatique. C'est donc la question de, finalement, quelle est la qualité de ce territoire métropolitain que nous laisserons à nos enfants. Je crois que c'est ça qui nous anime, finalement, dans l'exercice de nos missions, dans l'exercice de nos délégations.
Et les enjeux environnementaux, je crois, ils prennent de plus en plus de place. La biodiversité, le réchauffement climatique, vous l'avez dit. L'eau aussi, sans doute. La Garonne, très important.
T'en fais partie,
et, bien sûr. Et les abords de la Garonne à préserver.
Tout sujet. Tous ces sujets-là sont évidemment très importants, prégnants aujourd'hui dans nos réflexions, avec la conscience qu'il nous faut y répondre dans l'urgence.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, Dominique Fouchier, d'y avoir participé et nous avoir présenté cette compétence aménagement et politique foncière dont vous avez la vice-présidence à Toulouse Métropole. Je pense que les explications et les informations que vous avez données tout au long de ce numéro auront montré à nos auditeurs à quel point les actions et les orientations de la métropole dans ces domaines engagent l'avenir de notre territoire. Ce qui sera dans 10 ou 20 ans se décide maintenant. Pour en savoir plus, j'invite tous les intéressés à se connecter au site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.com, où ils trouveront de la documentation et des informations complémentaires sur notre sujet du jour. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.